Et une odeur particulière, non?
Bien sûr. Ce sont les documents anciens.
C'est l'odeur des documents anciens?
Oui, c'est ça. Mais un moment, s'il vous plaît, de moi attendre. Donc, nous sommes dans le dépôt d'archives de Brașov. Ici, c'est le dépôt où nous gardons les documents de 1353 jusqu'en 1934. Et les plus importants documents sont gardés ici dans ce coffre-fort. So, maintenant, je vais utiliser le clé secret pour ouvrir le coffre-fort. Parfois, c'est difficile de le trouver. Oui, c'est ça. Donc, ici, nous avons une lettre de Vlad Tepeș adressée au maire et les conseillers de Brașov. Le texte est écrit par des lettres slavones. C'était la langue officielle de la chancellerie de Valachie. Et les éléments qui donnent la puissance de ces documents, c'est-à-dire signifiant l'autorité du Seigneur, sont écrits avec les lettres rouges. C'est l'invocation symbolique, c'est le nom de Dieu qui a été écrit en rouge. Et ici, c'est le nom Yo Vlad. C'est vous, le, de, Vlad, et probablement Evoevod. Il informe mes amis de Brașov. J'ai de bonnes nouvelles. Avec la volonté de Dieu, tout le pays roman et tous les boyards ont adoré moi. Donc, il a réussi à monter le trône de Valachie. Donc, c'est en confirmation, peut-être, on interprète maintenant, que l'investition de ville de Brașov dans Vlad Tepeș comme candidat au trône a été justifiée et maintenant il a pris le trône de Valachie. Les documents sont une trace matérielle de l'existence de Vlad Tepeș, un objet que nous pouvons toucher aujourd'hui et prendre contact avec l'ancienne réalité.
Qui êtes-vous?
I am Dracula.
Dracula.
Gray eyes.
Des yeux verts menaçants.
Long face, dark hair.
Des cheveux longs bouclés noirs qui tombaient librement sur les épaules. Un cou de taureau.
Il a sans doute une malformation de la lèvre inférieure.
Un air en général de grande détermination et assez sombre. Il incarne le mal et il incarne aussi celui qui offense Dieu.
Vlad Tepeș, Dracula.
Il était une fois au pays de Muntenii, un voïvode chrétien de foi grecque, dont le nom en roumain était Dracula, ce qui veut dire dans notre langue le diable. Il était si méchant que sa vie fut à l'image de son nom.
Prince Dracula, une histoire vraie. Une grande traversée de Matteo Caranta et Anne Pérez Franchini.
Nous avons affaire à une prolongation des empires des steppes avec deux noms, qui est celui de Gengis Khan et celui de Tamerlan. On a pu parler de la stratégie du tsunami qui en fait régissait cette politique de la terreur, qui avait pour but de décourager, de paralyser par une violence énorme, mais appliquée ponctuellement l'adversaire. Donc il ne s'agissait pas d'une violence aveugle, mais d'une utilisation de la terreur comme une arme pour paralyser et pour effrayer et vaincre du coup les ennemis. Donc il s'agissait d'une mise en spectacle de la violence. Si vous voulez, l'image la plus frappante est celle des populations de villes entières qui sont décapitées et leurs têtes sont sont reconstruites en, en pyramide de têtes coupées. Ce que je veux dire donc par là, c'est que la violence brutale était appliquée comme une arme politique et qui servait à affirmer donc deux choses, une forme de découragement de l'adversaire et aussi une forme de terreur comme image de la grandeur du souverain. Au Moyen-Âge, on avait une idée du souverain qui est redoutable, qui inspire peur, qui inspire respect. Pour pouvoir appliquer ces ordres, un souverain doit être redoutable. Donc la violence de Vlad faisait en fait partie de son exercice d'une forme, d'une souveraineté qui est à la base, si vous voulez, de la conception politique de Vlad. Mais on se servait plutôt d'images fortes que de concepts.
Vlad règne depuis 2 ans. Si, en renonçant à l'alliance ottomane, il a dû soumettre les nobles par le sang, c'est désormais avec les riches villes de Transylvanie que Dracula doit négocier. Par tradition, ces villes saxonnes accueillent les prétendants au trône de Valachie. Elles exigent aussi des faveurs commerciales. Et puis elles se méfient de ce fils de Dracul. Tsepech soumet les villes saxonnes comme il a soumis les boyards, par le sang, le pal et la terreur. Mais c'est peut-être la terreur de trop pour l'empaleur, celle qui scelle son destin. Car sans appui ottoman, ni soutien transylvain, il n'y a pas de funambule qui tienne en Valachie.
Il est de plus en plus en butte à la menace ottomane parce qu'il ne paye plus le tribut, la rupture est consommée entre Dracula et les Turcs et Mahomet II, donc c'est la guerre.
Matei Kazaku.
Et donc Dracula décide de prendre les devants, encouragé par la propagande du pape Pie II qui appelle tous les chrétiens à une grande croisade pour 1462, justement. Lui, il attaque les forteresses ottomanes sur tout le pourtour du Danube, sur près de 800 km, et qui sont assiégés, brûlés, et aussi bien au nord et au sud, et les villages des alentours, et tous les habitants massacrés. Comme on ne pouvait pas tous les empaler, ils se font décapiter, et le prince demande qu'on lui ramène les oreilles. Et il énumère dans cette lettre, qui est un vrai bulletin de victoire, envoyé au roi Matthias Corvin de Hongrie, dans telle ville, dans telle forteresse, tant de gens, turcs et bulgares. Donc il tue aussi des bulgares, c'est-à-dire des chrétiens. Et il annonce donc très fièrement au roi de Hongrie qu'il attend la visite du sultan avec toute son armée pour le printemps, c'est-à-dire à partir de la Saint-Georges, 23 avril, et il le prie de venir lui venir en aide. La lettre fait évidemment le tour de l'Europe, parce que le roi de Hongrie l'envoie partout, et donc on sait en Europe, le pape est averti que voilà, Dracula a tué plus de 23 000, plus de 25 000, enfin les chiffres varient, de Turcs, alors qu'on nous dit qu'il y avait aussi des femmes et des enfants parmi les victimes.
L'empaleur ou la diplomatie du sang. Épisode 3.
Nous n'avons aucun document écrit de la main de Vlad.
Albert Weber.
Mais nous avons environ une trentaine de documents écrits sous sa supervision. On a par exemple une lettre dans laquelle il affirme avoir tué plus de 20 000 Ottomans après une attaque. Et après, il décrit sa victoire, qui est l'un des épisodes les plus brutaux jamais connus dans les sources valaques. Cette lettre raconte comment 20 000 personnes furent brûlées et découpées en morceaux.
Il faut essayer de s'imaginer comment a fonctionné ce registre et cette énumération horrible.
Marianne Coman.
Vlad Tepeș a poruncit probabil
Il a donné l'ordre à ses corps d'armée de franchir le Danube et de tuer autant d'hommes possibles, chrétiens comme musulmans. Je peux comprendre ça d'un point de vue militaire, l'intérêt de créer une zone dépeuplée. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est cette obsession qu'avait l'empaleur de faire le compte exact du nombre de ses victimes. Dans la lettre au roi Matthias, Tsepeș regrette même de ne pas avoir pu comptabiliser toutes les victimes.
À Aydemir et entre les deux rivières, 6840 furent tués. De même, 343 personnes ont été tuées à Arshova, 840 à Vetren. De même, 630 ont été tués dans le Turkana. En l'encerclant, ils prirent aussi sa ville et il ne resta qu'une tour. De même, 210 ont été tués à Marotem. À Giurgiu, 6414 personnes ont été tuées des deux côtés. Le commandant de la forteresse fut incontestablement tué et Hamza Bek y fut capturé encore. 1318 ont également été tués.
Et la tête coupée.
Des hommes et des femmes, des jeunes gens, des enfants et des nourrissons furent tués de la même manière. Et tous ces lieux ont été détruits. Ces noms ne sont cependant que ceux des victimes dont les têtes et les preuves ont été montrées à nos serviteurs, qui ont chassé dans ces régions. Sinon, pour ceux qui n'ont pas été montrés ou qui ont été brûlés dans des maisons, nous ne connaissons pas leur nombre. Beaucoup sont morts de cette façon.
This letter, in my opinion, is a collection.
Cette lettre, pour moi, est la somme de plusieurs lettres.
Adrian Georg.
Je crois que ce nombre très élevé, ce nombre impossible de 24 000, je pense qu'il dit tout. Vlad a voulu présenter cet événement comme une victoire totale, le plus grand des succès. Il a voulu montrer aux chrétiens que mener des actions contre les Ottomans pouvait aboutir à quelque chose. Pour la première fois dans l'histoire de la science draculéenne, pourrait-on dire, nous avons été capables d'identifier avec précision la plupart des endroits qu'il mentionne grâce au registre ottoman. On sait désormais exactement qui vivait dans ces lieux. Dans la plupart des cas, il s'agissait de membres d'unités paramilitaires de l'armée ottomane. La plupart étaient des organisations paramilitaires chrétiennes qui dataient de la période pré-ottomane. Nous avons plusieurs lettres de l'empaleur, mais celle-ci est la seule du genre, aussi détaillée. C'est un exemple unique dans l'histoire du Moyen-Âge roumain.
Il faut dire qu'il est unique. On n'a pas de tel témoignage pour ce moment-là. C'était vraiment une première pour l'Europe. Et comme il s'agissait de Turcs, sans savoir qu'il y avait aussi des Bulgares et des femmes et des enfants, tout le monde applaudit et tout le monde est très heureux. Le roi de Hongrie n'est pas enchanté par cette proposition parce qu'il ne voit vraiment pas comment il pourrait s'engager dans une croisade contre les Turcs à travers la Valachie, parce que Vlad lui demande de venir en Valachie.
Pour maintenir la sécurité en Valachie, il fallait empêcher aux Ottomans la traversée du Danube. S'ils arrivaient à passer le fleuve, alors la guerre était inévitable. 2 mois après la lettre de Vlad, pendant lesquelles les Ottomans ont mobilisé leurs troupes et préparé leur attaque contre la Valachie, Matthias Corvin, le roi d'Hongrie, a reçu une réponse négative de la part des nobles, qui n'ont pas voulu entrer en guerre pour sauver Dracula. Ils étaient prêts à défendre la Hongrie, mais seulement en cas d'attaque directe des Ottomans. Dracula s'est alors senti trahi par le roi Matthias Corvin, qui était aussi son seigneur, comme s'il avait perdu son pari. Matthias Corvin ne vient pas, et il est seul face à l'armée la plus puissante de l'époque, seul face au sultan ottoman et ses troupes.
La lettre date du mois de janvier, au début février, et Mahomet II invite son armée à Andrinople, parce que c'est là qu'elle se concentrait, pour le mois d'avril. Pendant tout le mois de mai, Les gens arrivent, il y a une flotte qui vient aussi sur le Danube, et en juin, début juin, tout début juin, ils passent le Danube. Tsepes adopte ce qu'on appelle la stratégie de la terre brûlée, ce qui était exactement ce que les boyards n'aimaient pas, parce que ça signifiait brûler les récoltes, empoisonner les puits, enlever tout le bétail, fuir, faire fuir les gens dans les forêts, se cacher. Les Turcs ont des difficultés. Quelques jours après avoir passé le Danube à Vidin, dans la partie la plus occidentale de la Valachie, choisie exprès par Vlad pour attirer, pour que le roi de Hongrie ait moins de chemin à faire, ils sont attaqués de nuit par Vlad et son armée.
Vlad, en personne, cheminait à travers les forêts, attendant de voir où se dirigerait l'armée de l'empereur. L'empereur, quand il apprit que personne ne venait le combattre, négligeait de se retrancher. Et le hasard voulut que le camp fût dressé dans un endroit découvert. On dit de Vlad qu'il venait en personne dans le camp du sultan pour espionner. Il s'approchait même en plein jour et observait les tentes de l'empereur et celles de Mahmoud et du bazar.
Vlad, il savait pertinemment qu'une invasion ottomane était un déploiement savant de violence brutale, dans la mesure où chaque intervention ottomane devait aussi ravager les territoires, réduire en captivité les populations. Et comme il connaissait parfaitement cet aspect, Vlad essaye en fait de dépasser les Ottomans, de les surpasser dans l'art de la violence guerrière, et en fait de les effrayer pour les vaincre. Durant l'expédition de 1462, lorsque l'armée ottomane arrive en proximité de la capitale de Târgoviște, les Ottomans posent le camp militaire, ils s'installent, et Vlad essaie de l'attaquer pendant la nuit, avec un but déterminé qui est celui de capturer le sultan qui se trouve au milieu du camp. Et cette attaque de nuit est restée célèbre. Elle est connue par plusieurs récits, dont un en provenance de l'historien byzantin Laonikal Kokondil, qui probablement était témoin durant cette campagne.
Avec moins de 10 000 cavaliers, il partit à la première garde de la nuit et pénétra dans le camp de l'empereur. Les Turcs, bien qu'en proie à la peur, demeurèrent immobiles, chacun là où il avait sa tente. Vlad attaqua le camp avec une très grande rapidité, lui, avec des torches et des cierges allumés et avançant avec son armée dans un ordre parfait et bien conçu. Comme l'aube approchait et que le jour pointait, il commença à se retirer du camp après avoir perdu cette nuit-là un très petit nombre de gens.
Après cette première épreuve, cette surprise qui a secoué l'armée ottomane, Vlad accueille l'armée qui avance, continue son avancement vers l'intérieur, le cœur de la Valachie, dans une forêt de pales. Et là, on est dans le display, dans la mise en scène la plus totale. Alors, avec des morts, ils n'ont pas été empalés pour ce biais-là, mais ils étaient déjà morts, et placés donc au bord du chemin, de la route. En fait, c'était une forme d'humiliation, parce que parmi les captifs, il y avait beaucoup de soldats ottomans qui avaient été tués et qui se retrouvaient donc sur les pales, et cela a complètement démoralisé l'armée ottomane, qui subissait entre-temps des problèmes de ravitaillement, dans la mesure où Vlad avait appliqué la stratégie de la terre brûlée. En fait, il ne trouvait rien pour s'alimenter. La population avait été évacuée savamment vers les Carpates, donc on ne pouvait pas récupérer les animaux, les bétails ou les réserves des paysans. L'armée était sur le point de s'épuiser, et puis ils subissent ce spectacle macabre qui a dû démoraliser les soldats. Et cela explique peut-être pourquoi les Ottomans ne s'attaquent même plus à Târgoviște. Ils prennent la décision de revenir vers le Danube et de se retirer de la Valachie.
Vlad fuit le pays à travers la forêt. Certains témoignages attestent que son épouse, restée anonyme dans les récits, se jette du haut d'une tour par peur des Ottomans. On peut lire également que Dracula sacrifie son fils aîné près d'un sentier de montagne pour accélérer sa fuite. À Târgoviște, la capitale, son frère Radu le Beau, resté fidèle aux Ottomans, est monté sur le trône. L'empaleur est traqué. Il se tourne alors vers son seul recours, Matthias Corvin, le jeune roi de Hongrie. Celui-ci a reçu ses lettres macabres. Il a entendu ses exploits guerriers. Il a craint cet appel coûteux à la croisade. C'est de lui seul que peut venir le salut de Dracula. Et pourtant, il va précipiter sa chute.
À ce moment-là, Vlad pensait que son alliance avec le roi Matthias Corvin était solide. Il a donc été à la frontière transylvaine pour attendre son arrivée. Et il a attendu environ 5 mois dans les montagnes. Et quand le roi est enfin arrivé, il a interdit à Dracula de faire quoi que ce soit contre son frère Radu ou contre les Ottomans. Il l'a certainement remercié pour sa défense. Aucun soldat ottoman n'avait franchi la frontière hongroise depuis la Valachie. C'était déjà exceptionnel de la part de Vlad d'avoir réussi à protéger la Hongrie. En tant que vassal de la couronne hongroise, c'était son devoir. Et il l'avait parfaitement rempli. Mais Vlad voulait le pouvoir. C'est l'une de ses caractéristiques en tant que dirigeant. Il était obsédé par le trône. Il voulait affronter son frère et reprendre la couronne. Mais le roi Matthias Corvin l'en a empêché, car cela aurait mis son pays en danger. La Hongrie, et plus particulièrement la Transylvanie, est la région d'origine de la famille Hunyadi à laquelle Matthias Corvin appartenait. Si la Transylvanie était détruite par l'invasion ottomane, Matthias aurait perdu une grande partie de ses revenus et de ses partisans. Il aurait même peut-être perdu son trône, car il y avait beaucoup de prétendants. Vlad était donc devenu un problème et un danger pour le roi.
Matthias Corvin est en négociation très poussée, et ça depuis 3 ans, avec l'empereur Frédéric III pour le rachat de la couronne hongroise. Sans cette couronne, un roi n'a pas de légitimité. Finalement, en 1462, seulement au mois de juin, on arrive à un accord. Comme quoi, donc, Frédéric III devait recevoir pour la couronne 80 000 ou 100 000 ducats d'or, les chiffres varient, et signer un traité avec le roi Matthias Corvin. Jusque-là, jusqu'en juin, donc de 1462, Matthias Corvin ne bouge pas. Il est à Budapest et il attend le résultat des négociations. Bon, à ce moment-là, en juin, il commence donc à préparer son armée pour aller aider son vassal, Vlad l'Empaleur. Sauf qu'à ce moment-là, les Turcs venaient déjà de quitter la Valachie. Et en juillet, la messe était dite. Le roi Matthias Corvin apprend que le sultan est parti, que Vlad se cache avec sa troupe, et bien que la Transylvanie ne veut plus venir à son aide, et que donc il faut s'entendre avec Radu le Bel. Et donc Matthias Corvin, au lieu d'aller vite vers la Valachie pour rencontrer Dracula, traîne sur le chemin. Il arrive seulement en novembre à Brașov. Donc de Bud à Brașov, ça doit faire quoi, 500 km, 600 km, tout au plus. Et il faut 3 mois, 4 mois.
Je ne pense pas que Matthias Corvin ait inventé de toutes pièces
Marie-Madeleine, de Sevin.
Les horreurs qu'on a imputé encore par la suite à Vlad l'Empaleur. Je pense qu'il l'a écouté en traversant, en prenant le temps de traverser la Transylvanie avant d'arriver jusque sur le terrain à Valak en cette fin de l'année 1462. Il avait reçu sans doute déjà un certain nombre de doléances de la part des villes saxonnes. Donc il a entendu depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, des rumeurs, puis des choses qui étaient peut-être plus que des rumeurs, des rapports de représentants de ces villes saxonnes, en particulier Brașov et Sibiu, qui lui montraient, enfin, non pas preuve à l'appui, mais sans doute avec des témoignages assez saisissants, jusqu'à quel point Vlad avait exercé des représailles à l'encontre des habitants de ces villes. Donc il est possible que Mathias Corvin ait été ébranlé par ces témoignages, ces éléments-là. Bon, il y a cela, et puis peut-être aussi, et là je pense que c'est ce qui a sans doute pesé le plus lourd, à partir du moment où ces habitants des villes saxonnes lui ont rapporté le fait que Vlad avait pris contact avec les Ottomans, bref, qu'il aurait joué une sorte de double jeu, même si c'est sans doute faux. Là, sans doute que Mathias Corvin s'en est inquiété. Les deux cumulés ont pu justifier de sa part l'arrestation de Vlad Tepeș pour éviter de prendre des risques. Pas seulement des risques moraux, parce que ça, bon, connaissant le personnage, je ne suis pas sûr que ça l'aurait forcément ébranlé, mais en tout cas des risques pour la sécurité du royaume, ça, je pense que ça a été l'argument massu.
Ce que Dracula voulait absolument, c'était épouser une parente, une cousine de Mathias Corvin, qui lui avait été promise, donc une noble hongroise, catholique, mais une épouse par laquelle il devenait donc parent du roi de Hongrie. Donc Vlad attend le roi Mathias, tout en faisant des escarmouches contre Radu le Bel, mais ni l'un ni l'autre ne réussit à s'imposer sérieusement. Et finalement, quand le roi de Hongrie arrive à Brașov, Dracula se présente aussi, bien sûr, il l'attendait, début novembre. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est dans les premiers jours de novembre que Dracula a été arrêté, course. Dracula est arrêté et envoyé comme prisonnier dans un château fort à Visegrad, pas loin de Bude. Qui n'était pas juste une forteresse, c'était l'ancienne résidence du roi de Hongrie avant que Mathias Corvin en construise son palais à Bude. Donc c'était le palais royal ancien.
Mathias Corvin avait reçu beaucoup d'argent de la part du pape et des Vénitiens et un soutien important pour combattre les Ottomans. Mais il arrête le seul homme qui a osé attaquer le camp ottoman pour tuer le sultan. Ce que Vlad a essayé de faire était spectaculaire. Mathias Corvin a donc dû expliquer les raisons qui l'avaient poussé à faire arrêter Vlad. Il a d'abord interrompu toutes les communications avec le monde extérieur. Il y avait un envoyé vénitien sur place, mais on lui refuse d'envoyer des lettres. En fait, Mathias Corvin cherchait un moyen d'expliquer sa décision. Et puis, miraculeusement, est apparue une lettre de trahison écrite de la main de Vlad, et dans laquelle il promet au sultan de l'aider à conquérir la Hongrie. Mathias Corvin a montré cette lettre à tout le monde en disant « C'est un traître! Je dois l'arrêter !» Et l'information est arrivée à Venise, puis jusqu'au pape. Il semble que le pape y ait cru. Mais il y a envoyé Nicolaus Madruza, un pope croate, pour qu'il enquête sur la question. Les Vénitiens ont également envoyé un nouvel ambassadeur qui a pour mission d'enquêter sur ce qu'on appelle alors l'affaire Dracula. Les Vénitiens soupçonnaient Mathias d'avoir été payé par les Ottomans pour arrêter Vlad ou d'avoir conclu un pacte secret avec eux.
Vlad est attablé au milieu d'un champ. Au fond, des collines et une église. Sur la table, le graveur a pris le temps de figurer un pain rompu, un calice et de la viande sur une assiette. Les mains de Vlad sont ouvertes, il communie. Face à lui, un homme brandit une hache. Il dépèse des corps humains. Le sol est recouvert de membres brisés. À ses côtés, 16 pales et autant de personnes mutilées forment la fameuse forêt macabre. C'est la couverture d'un long poème, « Von einem Wüstrich der Eis fürst Dracula aus der Valachia », d'un enragé qui s'appelait le prince Dracula de Valachie. 1070 vers écrits et chantés par l'un des plus illustres poètes de son temps, le Meistergesang Michel Behaim. Le poète recueille des pamphlets anonymes, écoute le témoignage d'un moine en exil. Lorsqu'il présente son poème à Matthias Corvin, celui-ci n'est pas du goût du roi. Et pourtant, il fixe la première renommée littéraire de Vlad Dracula.
Est-ce que je peux vous lire juste deux passages ?
Allez-y, allez-y.
Je pense que
bien sûr.
Avant le point du jour de bon matin, il alla vite avec ses gens sur la colline qui se trouve derrière l'église et les fit tous empaler, tout autour du sommet de la colline, en long.
Tout autour du sommet de la colline, en long et en travers. Écoutez les grands méfaits de ce pervers. Au centre et plus bas qu'eux, il était assis à une table où il mangeait à grand joie. Ce qui lui plaisait et lui donnait du courage, c'était de voir couler le sang humain, car il avait l'habitude d'y tremper sa main quand on le lui apportait à table pendant ses repas. Écoutez maintenant ce qu'il entreprit encore. Un homme honnête et pieux était venu chez lui. Il le trouva dans la ville où il avait empalé les gens et où il marchait entre eux et tout autour, en les regardant comme il en avait l'habitude. Car ils étaient nombreux et divers. Leur nombre équivalait à une grande forêt quand il y pendait des gens. Ce même homme se mit à demander à Dracula pourquoi il marchait de la sorte au milieu de cette puanteur. Dracula ordonna d'embrocher cet homme à un pal. Et afin de le remercier de son conseil, il le fit pendre très haut pour que l'odeur désagréable et la puanteur n'arrivent pas jusqu'à lui.
Il y a pour moi un point commun dans ces deux passages. C'est à la fois le cynisme du personnage et surtout son sens de la mise en scène.
Exactement, oui. Et le choix des lieux.
Hein. Pierre Monet.
Vous avez vu le premier passage, vous disiez sur la colline, juste derrière l'église. Ça, c'est quelque chose qui est épouvantable et impardonnable. Il y a évidemment eu des souverains cruels dans l'histoire des royaumes de cette chrétienté occidentale. Mais le crime absolu, c'est de déclencher des cruautés, des châtiments et des souffrances près d'un lieu sacré. Ça ne veut pas dire qu'on ne pend pas les gens dans les villes ou dans les principautés de France, d'Angleterre ou d'ailleurs. Mais vous savez bien que le gibet est placé à un lieu particulier, en dehors de la ville, et justement pas près d'un lieu saint ou d'un lieu de culte. Et donc là, voyez, c'est à la fois la mise en scène et la topographie. La topographie, parce qu'il y a la colline, alors on pourrait presque penser au fond, à la crucifixion de Jésus, sur le Golgotha, hein, mais avec une inversion, c'est une inversion permanente de toute la symbolique vertueuse, orientée vers le salut du christianisme, qui se trouve là, phrase à phrase, niée et renversée. Et c'est ce système-là qu'il y a dans la tête des chroniqueurs qui dénoncent et qui font ce portrait. C'est assez logique, hein. C'est pas comme ça des petits bouts de... c'est un texte très travaillé, hein, en fait.
Trebuie spus că toate aceste povestiri despre...
Il faut dire que toutes ces histoires sur Vlad Țepeș construisent une image qui sert à ceux qui les ébruitent.
Imagini diferite care slujesc unor scopuri felurite. În povestirile germane,
dans ces histoires allemandes, les actes de violence de Țepeș créent l'image d'un monstre. Pour le lecteur occidental, l'agression d'un moine est tout à fait condamnable.
În povestirile slavone,
alors que dans les histoires slaves, c'est le contraire. Le conflit entre le voïvode et les moines montre que la puissance de Dieu se manifeste à travers le prince plutôt que chez les moines. Je n'ai pas de souvenir concernant les moines chez Laonic Calcocondyle, le chroniqueur byzantin. Il raconte surtout le conflit Tsepeș et les boyards. Mais il raconte la fameuse attaque de nuit en copiant un épisode de l'Ancien Testament. Pour revenir au poème de Michel Behem, celui-ci se construit en miroir inversé de la façon dont un prince devrait se comporter.
Il menait son règne avec cruauté. Il ordonna qu'un clan entier fût brûlé et entièrement détruit. On empala et décapita vieux et jeunes, grands, petits, hommes et femmes, des plus insignifiants jusqu'aux plus importants. Ces pauvres gens étaient jetés par terre. Aux uns, on arrachait les dents, aux autres les doigts de la main, et aux autres les membres. À certains, le faux frère ordonna qu'on leur coupât les oreilles, la bouche, et le nez, et on leur arracha même les cheveux, ou on les pendit à une perche. À d'autres, on brûla le visage. La pitié était rare. Ce n'est pas une fable, mais la vérité.
Là, ce qui me frappe dans ce poème, c'est qu'on parle très peu de ce pays, alors que si on regarde aujourd'hui le mythe de Dracula, on associe immédiatement une couleur, un paysage, c'est des Carpates, c'est des châteaux noirs, c'est des forêts profondes, il pleut tout le temps, etc. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Tout est concentré sur les mœurs et le caractère de Vlad. Certes, on dit que voilà, mais il y a très peu de choses hein, dites sur la Valachie. Et très vite, eh bien, on a en quelque sorte un catalogue de tout ce qui manque en termes de vertu ou de qualité. Hein. Il est colérique, et alors on retrouve dedans. Par exemple, les grands fléaux hein, de l'Égypte, c'est-à-dire un mal qui frappe indifféremment les nourrissons, les femmes, les enfants, etc. C'est la colère de Dieu, si vous voulez, mais en quelque sorte inspirée par le diable. Je trouve qu'on a, au contraire, un discours qui en rajoute sur une sorte de mal à la fois infernal et radical.
La première histoire du prince Dracula, c'est la suite de cette campagne de dénigrement, mais qui est plutôt une campagne de justification de la part de Mathias Turin, parce qu'il faut bien voir qu'à partir du moment où il a procédé à l'arrestation de Vlad l'Empaleur, il y a eu des réactions très vives, hein, notamment du côté de la papauté, hein, qui le considérait comme son nouveau champion, enfin bon, quelqu'un qui... Pie II fondait de grands espoirs, donc il fallait justifier cette. Il y a le pape, il y a Venise aussi, parce que Venise c'est quand même le grand pourvoyeur de fonds avec le Saint-Siège pour toutes les campagnes sur le front ottoman, puisque ce sont des croisades. Bon, il y a toute cette dimension-là qui apparaît, puis Venise est elle aussi très très inquiète de la progression ottomane. Donc, il faut justifier. Et donc, cet écrit est une espèce de concentré de toutes les accusations portées contre Vlad III. C'est la mise par écrit de ces rapports qui ont sans doute été transmis directement à Mathias Turin, où il a traversé la Transylvanie, et donc avant de procéder à l'arrestation.
Je crois que le XVe siècle est le moment d'ailleurs de l'avènement de la personne, de l'individu. Et ici, on a un poème qui, me semble-t-il, incarne au sens étymologique du terme, c'est-à-dire dans la chair même et du responsable et des victimes. Identifié dans le monde contemporain de lequel il vit ces années 1460-1470, le tyran le plus sanguinaire de toute l'histoire de l'humanité, quasiment. Hein. C'est quand même une performance, parce que même si aujourd'hui on peut corriger l'exagération, il n'empêche qu'elle a été émise et écrite. Et que, quelque part, ça n'était pas scandaleux de dire dans les années 1460-1470 que Vlad était le pire des bourreaux et des tyrans. Alors, je crois que dans cette image de l'hyperbole démoniaque et sanguinaire, il y a évidemment une part, d'abord, du réflexe d'un auteur de langue germanique qui a besoin de dresser à la fois des contre-exemples ou des contre-modèles pour mieux affirmer son propre modèle et qui trouve dans une figure comme Vlad l'Empaleur le personnage idéal, c'est-à-dire à peine chrétien, qui peut, semble-t-il, naviguer entre les musulmans et les territoires chrétiens, cruel, qui ne respecte aucune morale, pas le droit des gens, qui d'ailleurs fait à la fois empaler, bouillir, etc., et des enfants, et des femmes. Donc, il est vraiment l'incarnation du mal. Et ce qui est intéressant, c'est que là où jusqu'au XVe siècle, on incarnait le mal dans des figures à la fois religieuses ou des lieux ou des vices, enfin, etc., il me semble que la nouveauté du XVe siècle, c'est que ces figures du mal commencent à s'incarner dans des personnages réels.
Lorsque Dracula eut entendu la nouvelle que les Turcs voulaient l'attaquer avec de si grandes forces, il réfléchit que toute opposition n'avait aucun sens. Le roi Mathias de Hongrie et ses meilleurs conseillers, il va les faire prisonniers. Ainsi pensa le scélérat. Il ne perdit donc pas de temps et écrivit au roi afin qu'il lui vînt en aide contre les Turcs. Le roi de Hongrie, avec une grande armée, se mit en mouvement vers Sibiu et Brașov. Et Dracula y vint également. Et ils passèrent ensemble 5 semaines, ou même plus. Durant ce laps de temps, le roi prit connaissance de ses travers vicieux et de la trahison criminelle qu'il avait préparée avec l'infidèle. Dracula fit au roi Mathias la proposition de quitter la ville. Ils marchèrent un certain temps. Dans ce pays valaque, Dracula croyait être chez lui. Lorsqu'ils arrivèrent sous un château, un seigneur du roi l'arrêta et fit prisonnier le lâche ennemi. C'est en Valachie, dans son propre pays, qu'il fut arrêté et enchaîné.
Interestingly enough, he was not executed.
Curieusement, il n'a pas été exécuté. Trahir le roi était pourtant passible d'exécution. Mais Mathias Corvin n'a pas appliqué cette peine. Peut-être qu'il n'était pas si convaincu que ça de la trahison de Vlad. Il l'a donc envoyé en Hongrie, dans la forteresse de Visegrad, qui était un lieu très important du royaume, à 40 km au nord de Budapest. C'était une prison destinée aux détenus de très haut rang. Il n'y est pas resté vraiment longtemps. On pense que ça n'a pas duré plus de 2 ans. Alors Vlad est donc probablement sorti de la prison de Visegrad, puis a reçu une maison à Buda dans laquelle il a vécu avec sa femme. Là-bas, ils auraient eu 2 enfants et seraient restés plusieurs années. On sait que sa femme est morte quelques années plus tard. Vlad s'est alors marié une seconde fois avec une femme de la famille royale, Justine Silag. Elle était parente du roi de par sa mère, et ils ont une maison à pêche au sud de la Hongrie, que l'on peut encore trouver aujourd'hui. À l'époque, on l'appelait la maison Dracula. Cela est consigné dans un contrat dont l'authenticité ne fait pas de doute.
Pour humaniser un tout petit peu le personnage, pour le dédiaboliser, si j'ose dire, on dit que pendant les années de captivité en prison, il a appris la couture. Il s'entretenait, dit le chroniqueur, avec ses vêtements. Donc, si vous voulez, c'est pas tout à fait attendu, mais Vlad faisait aussi des métiers manuels pour vivre, tout simplement, ce qui est un tout petit peu plus humain. Je pense effectivement qu'il avait aussi une forme de rationalité politique que l'on peut essayer de comprendre. Je me pose la question s'il n'a pas joué, si vous voulez, avec le diable, si on peut dire, comme ça, mais dont le but, effectivement, s'il n'arrivait pas à se faire aimer, au moins à se faire détester, craindre, respecter.
Well, we know he was forbidden to have any political.
Nous savons qu'il n'avait pas le droit d'entretenir des activités politiques. Évidemment, il ne pouvait pas quitter la ville où il se trouvait. Mais on ne sait pas grand-chose de plus. Sauf les histoires que l'on raconte sur ses perversions. Par exemple, sur le fait qu'il empalait les souris et les oiseaux en prison. Il y avait beaucoup d'anecdotes sur lui. La noblesse hongroise était un peu sceptique quant au fait que quelqu'un comme lui se marie à un membre de la famille royale. On racontait aussi l'histoire du banquet de la forêt de
Pâles.
Il est clair qu'il avait une image d'homme violent. Le roi hongrois l'utilisait même pour le montrer aux envoyés étrangers. Et il y a beaucoup d'histoires. Tout cela montre que la légende prend déjà de l'ampleur à cette époque. Et Vlad est maintenu comme une réserve politique et militaire du roi hongrois.
Ce qui est très surprenant, c'est que 12 ans après, on a l'impression que la faute est complètement oubliée. La faute, si faute il y a eu, et c'est tout le problème, c'est qu'on a le sentiment que finalement, il a été mis de côté de façon à ne pas prendre de risques. Là, je parle du point de vue hongrois, hein, de façon à faire en sorte qu'il ne puisse pas s'allier, à la fois porter préjudice aux villes saxonnes de Transylvanie et s'allier, si c'était vrai qu'il avait voulu s'allier aux Ottomans, donc continuer dans cette voie de rapprochement ottoman. Mais pour le reste, à partir du moment où ces deux dangers-là sont écartés, Matthias Corvin décide de le libérer sans avoir réussi à établir de preuve de sa culpabilité ni de son innocence, parce qu'on n'a pas non plus de rapport inverse, hein. C'est ça qui est très bon. Il nous manque énormément de pièces dans ce puzzle, donc il est difficile de savoir exactement quelles ont été les procédures appliquées, hein, dans le cas de ce procès probable de Vlad Lampaler. Les rapports de la diète, par exemple, hein, c'est un petit peu notre seul indicateur concernant l'opinion publique hongroise à l'époque, ne parlent pas du tout de Dracula. Hein. Le seul moment où elles en parlent, c'est au moment de sa libération, justement de sa réhabilitation plutôt. Et là, il y a des voix qui s'élèvent, mais plutôt du côté des ecclésiastiques, certains prélats, mais qui font aussi partie de cette assemblée, pour dire, mais quand même, c'est curieux, lui à qui on reprochait des actes absolument épouvantables, comment se fait-il qu'il ait été libéré? Et l'inquiétude, elle est plutôt à ce moment-là, y compris des ecclésiastiques qui étaient proches du pape, hein, ceux qui s'étonnent de ce retour en grâce d'un personnage pour le moins ambivalent. Mais le roi ne fait pas de réponse officielle à cela, hein, si ce n'est qu'il n'y a pas de griefs, hein, qui sont publiés contre lui à cette époque-là. Les choses se tassent jusqu'au succès littéraire, hein, des textes germanophones.
L'histoire de Dracula est une longue histoire d'exil. Exil transylvain, ottoman, puis hongrois. Prisonnier de Corvin, Vlad Tsepes mesure cependant sa renommée. L'histoire du prince Dracula précède désormais l'homme déchu. On l'utilise en épouvantail dans les négociations ottomanes, comme un fantôme que le roi appelle à sa guise pour effrayer des ambassadeurs rétifs. L'empaleur est craint et signe désormais ses correspondances avec le nom ambigu de Dracula. Mais Vlad ne reste pas indéfiniment dans sa cage dorée. Il se prépare une dernière fois à sa seule obsession, le trône de Valachie.
On le préparait pour le retour sur le trône. Et il part dans une campagne hongroise, en Bosnie. Et il va s'affirmer à Srebrenica, et où il fait des merveilles, il déguise ses soldats en turc, donc on leur ouvre les portes, et une fois dedans, hop, il tue tout le monde, et les Turcs les plus importants, il les découpe en morceaux et il met chaque morceau dans un pal. Ça, c'est un témoin oculaire qui raconte. Et l'année d'après, en 1476, à la tête d'une armée hongroise, aussi de mercenaires, il occupe le trône de Valachie. Et là, c'est son dernier règne. C'est au mois de novembre, justement, 1476. Mais ça ne va pas durer longtemps. Et malheureusement, à Noël, ou le Nouvel An en tout cas, le prince qu'il avait chassé était revenu avec l'aide des Turcs. Ils l'ont surpris, et lors de la bataille qui s'est ensuivie, Dracula est mort.
Il existe plusieurs versions concernant sa mort. On essaye encore de comprendre les motivations politiques des différents groupes impliqués dans cette mort. Il y a sa famille en Hongrie qui avait un grand intérêt à faire de lui, bien sûr, un bon souverain, mais aussi à lui offrir une mort héroïque. Mais il voulait également laver le roi hongrois de l'erreur qu'il avait commise en rappelant ses commandants et ses soldats en Hongrie. Il a laissé Vlad mourir seul contre les Ottomans. Ce n'était pas très bien vu. Alors la propagande hongroise a donc essayé de couvrir cette affaire et a inventé une grande histoire sur Vlad, qui aurait été tué par son propre peuple. Et il y a une version selon laquelle ce sont les boyards qui l'ont assassiné. Et enfin, nous avons une dernière version, selon laquelle les Ottomans ont payé des mercenaires pour tuer Vlad.
Durant l'hiver, Vlad est attaqué par surprise par une armée ottomane qui s'affronte dans une bataille peut-être près de Giurgiu, à la porte d'entrée des Turcs, et qui se termine par l'assassinat de Vlad. Alors l'épisode nous est raconté de manière assez détaillée par le même Fyodor Kouritsine, qui reprend des sources des contemporains. Donc, dans un premier temps, l'armée de Vlad l'emporte sur les Turcs, qui commence à être repoussé, même massacré, dit la chronique, par l'armée. Alors Vlad, plein de joie, monte sur une colline pour regarder le spectacle.
La fin de Dracula arriva ainsi. Tandis qu'il régnait au pays de Munteni, les Turcs attaquèrent son pays et commencèrent à le conquérir. Dracula les attaqua et les mit en fuite. Son armée les tuait sans merci. Et de joie, Dracula monta sur une colline afin de mieux voir comment ses gens massacraient les Turcs. Il s'éloigna ainsi de son armée et ses proches, le prenant pour un Turc, l'un d'entre eux le frappa d'un coup de lance. Mais lui, se voyant attaqué par les siens, oxyde sur le champ de son épée 5 de ceux qui voulaient l'abattre. Mais il fut transpercé par plusieurs lances. Et c'est ainsi qu'il fut tué.
Alors, c'est peu vraisemblable, il est tout à fait question en fait d'un assassinat par ses proches, c'est-à-dire les boyards qui étaient effrayés par la perspective de nouveau de se payer, si j'ose dire, un troisième règne de Vlad. En fait, ils ont tout simplement pris les armes pour l'assassiner avec des lances, dit la chronique. Par contre, on ne connaît pas le sort du corps de Vlad. On sait par ailleurs qu'une des pratiques ottomanes pour s'assurer de la disparition d'un ennemi héréditaire était celle d'envoyer la tête ou le scalp de la victime à Constantinople pour vraiment certifier l'élimination d'un adversaire. Donc très probablement que la tête de Vlad a été envoyée à Istanbul. Quant au corps, On a bon, les traditions qui parlent du monastère de Snagov, mais qui n'est pas vraiment en lien avec Vlad. Et normalement, les princes font enterrer dans leur propre fondation, qui ont une destinée en fait de lieu d'enterrement. On connaît que Vlad est le fondateur du monastère de Comana, donc peut-être c'est à Comana, mais on n'a pas effectivement une certitude là-dessus.
J'ai connu les deux personnes qui l'ont découvert. C'était un archéologue et un historien. La tradition disait qu'il était enterré devant les portes impériales, ou de belles portes qui s'ouvrent et par lesquelles entre que le prêtre officiant et sort et entre pendant l'office. Il y a donc une plateforme, enfin, le plancher, et là les moines disaient c'est ici qu'il est enterré, pour que les prêtres, en passant sur son corps, en sortant et en entrant, allègent un peu son corps des souffrances que lui inflige le diable pour ses péchés, etc. etc. Donc les premiers archéologues, quand ils ont fouillé là-bas, ont regardé dedans. Et bon, ils n'ont trouvé que des ossements d'animaux, un âne, paraît-il. Et donc c'était clair que c'était une fausse piste. Donc ils ont fait une tranchée dans le centre, depuis l'entrée de l'église jusqu'au maître-autel. Et là, à 2 mètres de profondeur, à 2 mètres, ils ont trouvé une grosse pierre tombale, sans inscription, et en dessous, un cadavre. Un cadavre en parfait état, vêtu d'un costume de couleur... C'était un rouge foncé, une couronne, une petite couronne de tournois, une bague attachée au petit doigt, attachée avec un fil. Donc, parce que c'était une bague féminine. Alors, je leur ai demandé, et alors, est-ce qu'il avait une tête ou pas? Alors, ils m'ont dit, mais oui, il avait sa tête, mais elle était toute recouverte par un tissu rouge, une sorte de mouchoir, mais grand. C'était vraiment en juillet, et le soleil, couchant, parce que c'était l'après-midi, entrait exactement par la porte, et ça a éclairé la tombe, ils l'ont vu, mais ils n'avaient ni appareil photo, ni rien sur eux. Et à ce moment-là, ils ont vu le cadavre qui se décomposait sous leurs yeux, se transformait en poussière. Parce qu'il était pratiquement intact. Ils m'ont dit tous les deux, des gens très sérieux. Ça a été un moment extraordinaire.
Prince Dracula, une histoire vraie. 3e épisode, L'Empaleur ou la diplomatie du sang. Avec l'historienne Marie-Madeleine de Sevin et les historiens Dan-Yuan Mureșan, Matei Cazacu, Albert Weber, Marianne Coman, Adrien Georg et Pierre Monet. Bogdan Popovici, conservateur des archives de Brașov. Texte de Vlad Voivod Draculea, de Theodor Kuritsin, de Laonikos Kakukondil et de Michel Beheim, lu par Sarah Chaumette. Doublage, Pascaline Bonnet, Andrea Schiffer et Olivier Martineau. Prise de son, Lucien Lefebvre, Antoine Espel, Yvan Charby, Hervé Dubreuil et Virginie Lorda. Mixage, Valentin Azanzelinski. Documentation, Annelise Signoret et Antoine Huyoz. Coordination, Christine Bernard. Collaboration, Anna Fulpin. Une grande traversée de Matteo Caranta, réalisée par Anne-Pérez Franchini.